Je ne suis pas à proprement parler ce qu'on appelle un Swiftie. C'est comme ça qu'on appelle les fans qui constituent l'armée d'adorateurs et de défenseurs de Taylor Swift. J'ai eu la curiosité d'écouter Taylor Swift complètement par hasard. Ryan Adams, un artiste américana protéiforme, en 2015 avait eu la bonne idée de faire une cover intégrale de l'album de Swift, intitulé 1989, en version folk acoustique. Et j'avais découvert des chansons de très bonne facture. Des chansons pop qui ne m'auraient pas du tout intéressé, prenaient beaucoup d'intérêt car elles étaient transposées dans ma zone de confort, la musique folk, par un artiste que j'aimais. Du coup, je me suis mis à faire un peu plus attention à elle. Beaucoup de choses me sont passées par-dessus la tête, mais son combat et ses victoires sur l'industrie du disque, les producteurs vicieux et Spotify, m'ont toujours étourdi et j'ai le plus grand respect pour cette femme qui tient la dragée haute aux exploiteurs. En 2020, les albums façon folk indépendante qu'elle a produits, Evermore et Folklore, m'ont beaucoup plu. Et voilà qu'elle sort un nouvel album la semaine dernière, c'est l'actualité du moment. Je ne l'ai écouté qu'une fois et j'ai un peu eu l'impression que c'était du déjà vu. Mais c'était bien foutu et encore une fois, elle arrive à placer des indices dans les pochettes et les notes de pochette avec beaucoup de malice et de créativité. Et ses fans achètent le disque physique et écoutent en streaming. Elle est très forte. Il y a deux jours, je suis tombé sur une interview de Neil Tennant. Vous connaissez peut-être pas Neil Tennant, et c'est pas très grave. C'est l'un des deux leaders d'un groupe des années 80, The Pet Shop Boys. Ce reliquat survivant des années 80 a tenu les propos suivants que je vous traduis à la volée. J'ai écouté l'album de Taylor Swift, elle me fascine en tant que phénomène parce qu'elle est très populaire et que ça m'intéresse. Mais quand j'écoute les disques, mon sentiment est, pour un phénomène aussi important qu'elle, où sont les hits ? Où est le Billie Jean de Taylor Swift ? Lorsque quelqu'un a suggéré « Shake It Off », Tennant a répondu en disant « Vraiment ? Non, je m'attendais à cette réponse. Mais j'ai écouté « Shake It Off » l'autre jour. Et non, ça n'est pas Billie Jean. Ce n'est pas... Mélodiquement, elle a une très belle voix d'ailleurs. Et la production est magnifique. Mais mélodiquement, c'est chanté sur une ou deux notes qui montent et qui descendent. Enfin, de toute façon, le phénomène est là et c'est une chose fascinante. » On peut constater une analyse très fine et très condescendante de la part d'un artiste totalement has-been qui essaye de lancer un nouvel album et d'attirer la lumière sur lui en profitant de la sortie de l'album de Taylor Swift. Malheureusement, l'intervieweur ne lui demande pas à lui où est son Billie Jean. En lisant son interview, j'ai eu un peu l'impression de lire l'avis de Mireille Mathieu sur, par exemple, Johnny Cash ou Frank Sinatra. Bonne écoute. Aujourd'hui, on se penche avec beaucoup de retard sur Hitchhike de Marvin Gaye et sur les débuts de l'un des artistes phares de la Motown.
Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Mené par le Capitaine Dilligaff, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le Capitaine Dilligaff n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que « Danny Briand l'est-il vraiment ?»« Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Eddy Mitchell ?» Le blues a-t-il été inventé par les Blancs ? Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées ? Patti Smith aime-t-elle Morrissey ? Et qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école ? Bonne écoute.
Uno, dos, one, two, tres, quatro.
Voici les débuts de l'une des plus grandes carrières de la musique soul. Voici l'un des plus grands artistes issus de l'usine à tubes Motown. Nous allons nous pencher sur la croissance continue de la société Motown et sur les relations personnelles qui l'ont animé dans les années 60, mais qui l'ont aussi mené à sa perte. Nous allons nous pencher sur Hitchhike et sur les débuts de la carrière de Marvin Gaye. Une chose dont nous n'avons pas beaucoup parlé dans le podcast jusqu'à présent, c'est la façon dont l'industrie du divertissement, jusqu'à une date relativement récente, a agi comme une soupape de sécurité pour la société. Un endroit où les gens qui ne s'intégraient nulle part pouvaient se construire une vie et gagner leur vie sans jouer le jeu des conventions sociales normales. Par instinct, par tempérament et par éducation, Marvin Gaye était clairement l'une de ces personnes. Il a toujours été quelqu'un qui se frottait à l'autorité. Il a passé sa jeunesse à se battre avec son père violent et a fini par quitter le domicile familial pour rejoindre l'armée de l'air. Pas par passion pour les avions ou pour l'armée, juste pour s'éloigner de son père. Mais il n'est pas resté longtemps dans l'armée de l'air. Il a été réformé en raison de problèmes mentaux qu'il a ensuite prétendu avoir simulés. Et sa libération honorable a indiqué que, ouvrez les guillemets, Marvin Gaye ne peut pas s'adapter à l'enrégimentation et à l'autorité. L'enrégimentation et l'autorité. Quel programme, on dirait du Macron dans le texte. De retour à Washington DC, où il a grandi, et se sentant en échec, il forme un groupe de doo-wop appelé The Marquise. Plus tard, Gaye déclarera qu'il n'avait trouvé ce nom en référence au Marquis de Sade, mais en fait, Gaye n'avait jamais entendu parler de Sade à l'époque. Les Marquis étaient comme 1 million de groupes de doo-wop de l'époque et penchaient vers l'extrémité la plus douce du doo-wop. Certains diront sirupeuse, salut Arnaud, s'inspirant particulièrement des Moonglows. Le groupe se produit dans la région de Washington et attire l'attention de Bo Diddley, qui vit dans la région et est un ami avec un voisin du groupe. Diddley les prend sous son aile et écrit et produit les deux faces de leur premier single, sur lequel un autre membre, Rhys Palmer, joue le rôle de chanteur principal. Palmer prétend également avoir écrit les deux chansons, mais c'est Diddley qui est crédité et selon moi, elle ressemble à s'y méprendre à des œuvres de Diddley. À l'origine, les morceaux étaient accompagnés par le groupe de Diddley, mais OK Records, la maison de disques pour laquelle ils enregistraient, a demandé que l'une des deux faces, Wyatt Earp, soit réenregistrée avec des musiciens de studio comme Panama Francis, qui jouait sur presque tous les disques R&B produits sur la côte Est à l'époque. Curieusement, à l'écoute des deux versions, la version avec les musiciens de studio semble plus brute et Bo Diddley-esque que celle avec le groupe de Bo Diddley. Le résultat ressemble beaucoup au disque des Coaster. Écoutez plutôt. Shot than all the rest, the fastest man I see with a gun. When you see him, you better run. You know who I mean, Wyatt Earp. Wyatt Earp, he had a friend, stuck with him through thick and thin. He was a gambler. Lors de la même session initiale, les Marquis ont également fait les chœurs sur un disque de Billy Stewart. Pour l'anecdote, le premier single de Billy Stewart, Billy's Blues, était la première apparition de la figure de guitare qui devint plus tard la base de Love is Strange, et il jouait du piano dans le groupe de Diddley. Avec le groupe de Diddley et les Marquis, ils ont enregistré Billy's Heartache. Oh, Cependant, le premier disque des Marquis n'a rien donné. Et le groupe a été abandonné par le label et s'est remis à jouer dans les clubs de Washington, D.C. Il semblait que leur rêve de célébrité était terminé pour de bon, mais l'un des membres du groupe, Chester Simmons, a accepté un emploi de chauffeur de Bo Diddley, ce qui a permis au groupe de connaître sa deuxième grande réussite. Diddley était en tournée avec les Moonglows, qui, en plus d'être des artistes de chez Chess, avaient également soutenu Diddley sur des disques comme Diddley Daddy.
I found her right here in the windy city. Somebody kissed my baby last night. My pretty baby cried, you know it wasn't right.
Et Harvey Fuqua, le leader du groupe, se plaint à Diddley du reste du groupe et en particulier de Bobby Lester, le chanteur ténor du groupe. Il envisageait de laisser tomber tout le groupe et de se doter d'un nouveau groupe de Moonglows plus performant. Simmons entendit Fuqua parler de cela avec Diddley et suggéra que les Marquis pourraient faire l'affaire. Lorsque la tournée arriva à Washington, Fuqua auditionna les Marquis et commença à travailler avec eux pour les amener au niveau dont il avait besoin, tout en continuant à tourner avec les Moonglows d'origine. Fuqua a formé les Marquis à des choses telles que le contrôle de la respiration. En particulier, il avait une technique qu'il appelait « blow harmony » qui consistait à faire chanter le groupe avec des sons très doux, respirer plutôt qu'avec les sons plus durs comme « do » que la plupart des groupes de doo-wop utilisaient. Fuqua méprisait la plupart des groupes de doo-wop qu'il appelait « gang groups ». Il a appris aux Marquis à former leur bouche et à utiliser les muscles de leur gorge et toutes les autres techniques que la plupart des chanteurs doivent apprendre intuitivement ou n'apprennent jamais. Le « breathy sound », le son qui respire, que Fuqua leur a enseigné, allait devenir l'une des techniques les plus importantes que Gaye allait utiliser en tant que chanteur tout au long de sa carrière. Fuqua ramena le groupe avec lui à Chicago et y ajouta un sixième chanteur, Chuck Barkside, qui doublait Simmons à la basse. Il y eut également des tentatives d'agrandissement du groupe. David Ruffin, par exemple, qui devint plus tard le chanteur des Temptations, auditionna pour le groupe, mais fut refusé par Fuqua. Comme quoi, on n'a pas toujours du nez. Le groupe, rebaptisé Harvey and the Moonglows, a enregistré quelques titres pour Chess, mais la plupart n'ont jamais été publiés. Avec Etta James, ils ont fait les chœurs sur deux succès de Chuck Berry, Almost Grown et Back in the USA. À l'époque, Etta et Harvey étaient en couple et Marvin en a pris bonne note. Avoir une relation avec quelqu'un d'autre dans l'industrie peut être bénéfique pour votre carrière. Marvin commence également à découvrir d'autres choses, comme le fait qu'il n'aime pas vraiment être sur scène, mais il adore chanter. Et la fatigue des tournées peut être atténuée par la consommation de cannabis. Marvin ne voulait pas du tout être sur scène, il voulait juste enregistrer des disques en fait. C'est dans le studio qu'il se sentait vraiment chez lui. Lorsque les Moonglows sortent quelques enregistrements, dont l'un Mama Lucci est chanté par Marvin et coécrit par Marvin et Harvey.
Pop my Mama Lucci, she's a brand new coochie. Walk ding dong, baby.
Un autre disque sur lequel Marvin apparaît, mais pas en tant que chanteur principal, est 12 Months of the Year, une tentative de retrouver le succès des Ten Commandments of Love des Moonglows originaux. Sur cet album, Marvin récite les paroles du début et à la fin, et tout en faisant les chœurs.
I'll always love you, darling. 12 months of the year, even when the snows fall, our love will be clear.
January, we'll drink a toast to Auld Lang Syne.
February,
on Valentine's Day, please say you'll be mine.
Whoa,
you know the wind's gonna blow.
April showers, rain.
Birds from the southland will fill the air. Beautiful flowers blooming everywhere.
June,
you're gonna be my bride, and I'll be your girl.
July, August, and September,
we're gonna be on our honeymoon. Gonna be so happy until eternity and in a
October.
Ooh, you're out of this world. Oh, I give thanks, yeah, for such a wonderful girl. But in a
arrivent à la fin de leur carrière. Et Harvey arrive également à la fin de sa relation avec Etta James. Anna Records, l'un des labels détenus par les membres de la famille Gordy, avait conclu un accord de distribution avec Chess Records. Et Leonard Chess proposa à Harvey de s'installer à Detroit et de travailler avec Anna Records en tant qu'agent de liaison avec Chess. Bientôt, Harvey Fuqua fait partie intégrante de la famille Gordy Il se sépare d'Etta James et entretient une relation avec Gwen Gordy, la sœur. Gwen s'était séparée de son propre partenaire pour être avec Harvey, et Gwen et son ex, Rockwell Davis, ont écrit une chanson sur leur séparation qu'Etta James a chantée ensuite, « All I Could Do Was Cry ». Marvin était venu avec Harvey, il avait signé avec lui en tant qu'artiste solo, et Harvey pensait que Marvin pouvait devenir un nouveau Sinatra, un Frank Sinatra noir, voire mieux que Sinatra. Marvin est signé chez Harvey Records, le label de Harvey, mais après la relation amoureuse entre Harvey et Gwen, leurs différents labels sont tous regroupés au sein de la famille Motown. Au début, Marvin n'était pas sûr de pouvoir enregistrer après la fermeture de Harvey Records, mais il a fait très forte impression sur Berry Gordy en s'invitant à la fête de Noël de la Motown en 1960 et en interprétant seul Mr. Sandman au piano. Il découvre bientôt que Berry Gordy a racheté son contrat d'enregistrement, ainsi qu'une part de 50% de son management, et qu'il est désormais en fait sous contrat avec Tamla. Marvin en est un peu déprimé. Il voyait en Fuqua une figure paternelle, mais Fuqua n'a jamais été autre chose qu'un enfoiré, un profiteur, un proxénète. Heureusement, Marvin va rapidement respecter Gordy. Il découvre également que la sœur de Gordy, Anna, s'intéresse beaucoup à lui, bien qu'elle ait 17 ans de plus que lui. Il ne voit pas cela comme un obstacle à sa rencontre avec la sœur du patron. Il y avait un véritable amour entre Marvin, âgé de 20 ans, et Anna Gordy, âgée de 37. Mais Gay a également compris qu'il y avait un vrai avantage à faire partie de la famille Gordy, et Berry Gordy, à son tour, pensait que le fait que ces artistes fassent partie de sa famille était aussi un avantage. Cela permettait de mieux les contrôler. Dès le départ, Marvin et Berry ont des idées très différentes sur l'orientation de la carrière de Marvin. Marvin se voyait comme un chanteur dans le même style que Nat King Cole ou Jesse Belvin, alors que Gordy voulait qu'il soit un chanteur de R&B, comme les artistes de la Motown. Si Marvin apprécie des chanteurs comme Sam Cooke, il est aussi admirateur de Dean Martin et de Perry Como. Il dira plus tard que les pulls qu'il portait sur de nombreuses photos dans les années 60 étaient inspirés de Como et que « j'ai toujours eu l'impression que ma personnalité et celle de Perry avaient beaucoup de choses en commun ». Ils finissent par trouver un compromis. Marvin enregistre un album de vieux standards, mais il y a un single R&B dont une face est écrite par Berry et l'autre par Harvey et Anna. The Soul Food Moods of Marvin Gaye n'est que le deuxième album publié par la Motown qui se concentre par ailleurs sur les singles, mais ni cet album ni le single écrit par Berry, Let Your Conscience Be Your Guide, n'ont de succès commercial.
Let your conscience be your guide. Let your conscience be your guide. ever done you wrong.
En plus de chanter sur l'album, Marvin joue également de la batterie et du piano. Et bien que sa carrière de chanteur ne soit pas très florissante à ce moment-là, il commence à être connu dans la Motown pour faire tout ce qui est nécessaire, que ce soit jouer de la batterie sur une session ou une autre, ou même passer un coup de balai. La chose la plus remarquable de l'album, cependant, est qu'il a changé l'orthographe de son nom de famille, de Gay, G-A-Y, à Gay, G-A-Y-E. Il a donné trois raisons différentes pour ce changement, dont au moins deux sont liées. La première est qu'il a été inspiré par Sam Cooke, dont il voulait imiter la carrière. Cooke avait rajouté un « e » à la fin de son nom de famille, et Marvin faisait la même chose. La deuxième raison est qu'à cette époque, le mot « gay » était déjà utilisé pour désigner la sexualité. Et des rumeurs circulaient sur la sexualité de Marvin, qu'il ne voulait surtout pas encourager. Il aimait porter des vêtements féminins en privé, et il a dit certaines choses sur son expérience du genre qui pourraient suggérer qu'il n'était pas entièrement hétéro, mais il ne s'intéressait vraiment qu'aux femmes sur le plan sexuel et était, comme beaucoup de gens à l'époque, au moins légèrement homophobe. Et comme beaucoup de gens, il confondait sexualité et genre et il ne voulait désespérément pas être considéré comme autre chose qu'hétérosexuel. Mais il y a aussi un autre aspect à cela. Son père portait lui aussi des vêtements féminins en privé. Et le souhait de Marvin de ne pas être perçu comme un homosexuel était lié à celui de ne pas être perçu comme son père, qu'il a maltraité physiquement et émotionnellement tout au long de sa vie et a fini par le tuer comme tout le monde le sait. Et son père était Marvin Gaye Senior. En ajoutant le « e », il voulait non seulement éviter d'être perçu comme un homosexuel, mais aussi éviter d'être perçu comme son propre père. Vous pouvez me remercier pour cette démonstration brillante de psychologie de bistrot. Bien que le premier album de Marvin ne soit pas un succès, il fait tout ce qu'il peut pour s'impliquer davantage dans le label, dans son ensemble. Il jouait de la batterie sur des disques, bien qu'il n'ait jamais joué de cet instrument auparavant, simplement parce qu'il voulait être dans le studio. Il a joué sur un disque dont nous avons déjà parlé, Please Mr. Postman, des Marvelettes. Il a joué avec les Miracles à l'occasion. Il a également joué sur I Call It Pretty Music, But All People Call It The Blues de Little Stevie Wonder. Sur That's What Girls Are Made For, des Spinners, un groupe également connu sous le nom de Detroit Spinners. To hold and to squeeze. également coécrit et joué de la batterie sur Beachwood 45789 des Marvelettes qui a atteint le top 20. Mais ce genre de choses a fini par pousser Gaye vers l'écriture, ce qu'il ne voulait pas faire. À l'époque de la Motown, il y avait une démarcation stricte et la seule personne autorisée à écrire et à jouer et à produire était Smokey Robinson. Tous les autres étaient soit des auteurs-producteurs, soit des chanteurs. Et Marvin savait qu'il voulait être chanteur avant tout. Je dis que Smokey Robinson était la seule personne autorisée à être à la fois auteur, producteur et interprète à la Motown, parce que c'est ce que Marvin Gaye a déclaré plus tard. Mais à ce moment-là, Eddie Holland faisait encore toutes ces choses. Mais les disques de Marvin ne marchent pas, et ce n'est que grâce aux encouragements d'Anna Gordy qu'il a pu continuer à sortir des disques. S'il n'avait pas abandonné lui-même, il aurait presque certainement été abandonné par la maison de disques. Et indirectement, son premier succès a été inspiré par Anna. L'attitude de Marvin à l'égard de l'autorité se manifeste à nouveau dans son attitude à l'égard de la Motown et de Berry Gordy. À ce moment-là, Motown a mis en place sa célèbre école de charme, un département du label qui enseigne à ses chanteurs des choses telles que l'élocution, la posture, la façon de s'habiller et de danser. Et, comme on le voit, le système K-pop n'a rien inventé. Marvin refuse catégoriquement de participer à ses cours, même s'il dira plus tard qu'il le regrette. Anna lui disait tout le temps qu'il était têtu, et il a commencé à y réfléchir et à jammer avec Mickey Stevenson, le compositeur et producteur de la Motown avec lequel il travaillait le plus étroitement et qui avait commencé comme chanteur avec Lionel Hampton. Tous deux sont arrivés à ce que Marvin a décrit plus tard comme un feeling de jazz basique, puis Berry Gordy a suggéré quelques accords supplémentaires qu'il pourrait y ajouter, et le résultat a été « Stubborn Kind of Fellow ». Un type de mec têtu.
I'm
peut comprendre ce qu'il voulait dire en parlant de jazz, notamment avec la partie de flûte de Beans Bowles. Mais le produit fini est un disque de R&B. Marvin ressemble plus à Ray Charles qu'à Sinatra ou Como, et les chœurs de Martha and the Vandellas ne sont certainement pas ceux que l'on aurait pu trouver derrière un crooner. L'album est entré dans le classement R&B, se classant parmi les 10 premiers, mais n'a pas atteint le public pop que Gay visait. Il était déçu car ce qu'il voulait plus que tout, c'était atteindre un public blanc. Car il savait que c'était là que se trouvait l'argent. Mais après avoir obtenu un succès R&B, il savait qu'il devrait faire comme tant d'autres artistes noirs et jouer devant un public noir pendant longtemps avant de réussir le crossover. Cela signifie également partir en tournée, ce qu'il déteste. Fin 1962, il est inscrit à l'affiche de la Motown Review aux côtés des Contours, des Supremes, des Marvelettes, de Little Stevie Wonder, de Mary Wells et des Miracles. Sur l'album live de cette tournée, enregistré à l'Apollo, on peut entendre Gay essayer de trouver un équilibre entre son désir d'être un crooner de type Sinatra, attirant un public blanc, et sa prise de conscience qu'il allait devoir séduire aussi le public noir. Le résultat est qu'il chante « What kind of fool I am », l'air du spectacle de Anthony Newley, en y ajoutant des interpolations inspirées plutôt du côté de Ray Charles.
Introducing a young man at this time, ladies and gentlemen, who is more or less enjoying the success of his very first tune, a little thing entitled Stubborn Kind of Fellow. Ladies and gentlemen, a nice round of applause for Mr. Marvin Gaye.
I'd like to do a very beautiful ballad for you. And it goes a little something like this. What kind of fool am I who never fell in love? It seems that I'm the only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell. Yeah, yeah, yeah. A lonely cell in which an empty heart must dwell. Tell me, what kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this? Why can't I fall in love? I wanna know, just like any
and maybe
c'était une véritable préoccupation pour lui. Il dira plus tard, « Sur le plan commercial, cependant, j'ai vite compris que c'était avant tout mon public qui allait me soutenir. Je me suis juré de toujours prendre soin d'eux, de leur donner le funk qu'ils voulaient. Ce n'était pas mon premier choix, mais il y a de l'intégrité dans l'idée de plaire à son propre public. Secrètement, j'aspirais à chanter pour de riches républicains en smoking et en queue de pie au Copacabana. Que voulez-vous ?» Il a détesté cette tournée. Mais certains des musiciens qui y participaient pensaient que c'était ce qui avait fait de lui une star. En particulier, ils savaient que Gaye avait le trac, qu'il détestait être sur scène et qu'il ne se donnerait pas à fond lors d'une représentation live. À moins qu'il ne fasse jouer Little Stevie Wonder avant lui. Les prestations de Wonder étaient si excitantes que Gaye devait donner tout ce qu'il avait sous peine d'être hué. Et Gaye commença à relever le défi. Il avait toujours le trac et essayait de ne pas se produire sur scène, mais lorsqu'il montait sur scène, il devenait un artiste captivant. Il donnait tout ce qu'il avait. C'est ce qui ressort de son premier enregistrement. L'enregistrement qu'il a réalisé après la fin de la tournée. L'enregistrement d'Apollo, que nous venons d'entendre, date de la dernière semaine de la tournée. Et deux jours après la fin de la tournée, le 19 décembre 1962, Marvin Gaye était de retour en studio, là où il se sentait le plus à l'aise, pour écrire une chanson avec Mickey Stevenson et Clarence Paul. Bien que la chanson ait été écrite par trois personnes, la plus grande partie a été écrite par Gaye, qui a trouvé le groove de base avant que les autres auteurs n'interviennent. Et il a joué du piano et de la batterie sur l'enregistrement. I'm going to Chicago, that's the last place my baby stay. Yeah, it's out. I'm packing up my bags, gonna leave this old town right away. It's out. What the sign on the highway read. Hitchhike. I'm gonna keep moving till I get to that street called 63rd. Hitchhike. Yeah, I've got to find that girl. If I have to hitchhike around the world. Hitchhike, baby. Come on, just hitchhike. Now hitchhike. It's alright. I'm going to St. Louis, but my next stop just might be L.A. Say, got no money in my pocket, so I'm gonna have to hitchhike all the way. Yeah, I've got to find a girl if I have to hitchhike around the world. And what I say, go hitchhike, come hitchhike to the hitchhike, now hitchhike, baby. Hitchhike est devenu le premier véritable succès de Gaye. Elle s'est classée à la 12e place du classement R&B, mais a également atteint les 40 premières places du classement pop, en grande partie grâce à ses apparitions à l'émission American Bandstand, où il a fait la démonstration d'une nouvelle danse qu'il venait d'inventer, consistant à tendre son pouce comme un autostoppeur, ce qui a suscité un engouement mineur dans le public de Bandstand. Nous sommes encore à l'époque où une danse de fantasy, comme le twist ou autre chose, était la chose la plus importante pour avoir du succès. La chanson était également devenue la première chanson de Marvin Gaye à être reprise régulièrement. La première reprise a été faite par les Vandellas, qui ont fait les chœurs sur la version de Marvin et qui ont utilisé la même piste pour leur propre enregistrement. C'était quelque chose qui arrivait régulièrement à la Motown. Et si vous écoutez les albums des artistes de la Motown dans les années 60, vous entendrez souvent un single à succès avec des chœurs différents. Mais si Martha and the Vandellas ont été les premières à reprendre Hitchhike, elles étaient loin d'être les seules. Cette chanson est devenue l'une des préférées des groupes de rock blanc comme les Sonics ou les Rolling Stones et elle a inspiré de nombreux autres disques de rock à des gens qui voulaient montrer qu'ils savaient jouer de la soul. En juin 1963, Marvin Gaye est une véritable star, marié à Anna Gordy. Il a même pu acheter une maison à sa mère. Lors de la réception de mariage, Gaye et Anna se disputent violemment et Anna finit par frapper Gaye à la tête avec le talon de sa chaussure. Et alors qu'il avait acheté la maison pour sa mère, son père vivait toujours avec elle et était toujours aussi toxique qu'il l'avait toujours été. Mais pour l'instant, ces choses n'ont pas d'importance. Marvin Gaye était au sommet du monde et avait entamé une série de singles qui allait définir le son Motown. Il était également en train de devenir un auteur-compositeur à succès. Et la prochaine fois que nous le verrons, ce sera pour une chanson. Note de bas de page, pour les informations relatives à la Motown, dans cet épisode et dans d'autres, j'ai utilisé les ressources suivantes. Where Did Our Love Go? The Rise and Falls of Motown Sound, de Nelson George. To Be Loved, de Berry Gordy, qui est l'autobiographie de Gordy. Woman of Motown and a Rally Story, de Susan Whitehall. I Hear a Symphony, Motown and Crossover R&B de G. Andrew Flory et l'encyclopédie Motown de Graham Betts. Motown Junkies est également un blog rarement mis à jour qui examine jusqu'à présent les 693 premiers titres publiés sur les singles de la Motown. Il existe un coffret Complete Motown Singles 59-62 disponible chez Hippo Select avec des notes de pochette complètes, mais si vous ne voulez que la musique, je vous recommande un coffret beaucoup moins cher chez Real Gone Music. Pour obtenir des informations sur Gaye en particulier, on peut s'appuyer sur Divided Soul, The Life of Marvin Gaye, de David Ritz.